Bien, cinquième édition avec Francine Forget.
Bonjour, vendredi 1er septembre. Pouvons-nous le croire?
On n'a pas le choix, je pense.
Alors, c'est la voix de Mathieu Tessier que vous venez d'entendre.
Et de Francine Forget.
Oui, voilà, merci. Qui est accompagné, Mathieu, ce matin, de Jean-Christophe Matt, hein, qui vient nous visiter de temps en temps.
Nous surveiller, je pense, plus.
Bien, en fait, c'est notre évaluateur.
Exact.
Agréé.
Oui.
Respecté.
Agréable.
Et écouté.
Voilà.
Voilà. Alors, on vient de décrire un peu qui est Jean-Christophe en quelques mots, mais évidemment, il ne faut pas s'en tenir juste à ça. Quelle a été votre semaine, mon cher Mathieu?
Oh! J'ai attendu patiemment que l'hiver arrive.
Que l'hiver arrive?
Oui.
Mais là, vous allez être très, 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 très déçus parce qu'on a un regain d'été. On annonce 7 jours de beau temps avec canicule et sans eau. Parce qu'on en a eu beaucoup encore cette semaine.
Oui, ben ça, oui, c'est important. Ben écoutez, je patienterai encore davantage.
C'est ce que j'allais vous dire. Il faut absolument que vous aiguisiez votre patience parce que on est loin d'être rendu là.
Et vous, d'ailleurs, votre semaine, oui.
D'ailleurs, si vous vous rappelez ces dernières années, c'est un peu toujours la même situation qui se répète.
Mm-hmm.
Parce que les enfants, ils retournent à l'école et ils se mettent à faire chaud. Puis parfois, dans les classes, c'est très, 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 très chaud. Fait saillant de votre côté, à part d'attendre désespérément l'hiver?
Je blaguais, évidemment. Non, mais il y a le début des saisons théâtrales. Donc, tranquillement, les pièces se recommencent. Et j'ai très hâte parce que, ben voilà, je sors beaucoup pendant l'automne et l'hiver. Alors, j'ai bien hâte d'aller au Prospero, à l'Espace Libre, à la Chapelle, qui sont probablement mes places préférées.
Places préférées pour aller voir des pièces.
Merci, voilà.
Voilà, OK.
J'ai pas fait mes exercices de diction ce matin.
Vous auriez dû mettre votre crayon, là, et le faire, là. Peut-être aurez-vous des suggestions à cet égard dans notre coiffeur
en fin
d'émission,
ben oui.
Pourquoi pas. Et en fait, Mathieu, je dirais que c'est on est en ébullition culturelle. Vous parlez du théâtre, il y a le cinéma aussi, beaucoup de films québécois à venir au cours de la prochaine saison. C'est sans compter les galeries d'art qui ont commencé à faire les vernissages pour les expositions d'automne, les musées également, et en même temps se chevauchent des festivals, et oui encore, je vais en parler tantôt là, de quelques-uns, parce qu'on est encore là-dedans. Par ailleurs, je vous dirais que dans les faits saillants de la semaine, je ne peux pas faire autrement, justement, puisqu'on parle de culture, de souligner la performance exceptionnelle du Temps d'un été, le film de Louise Archambault, qui a défoncé le plafond des 2 millions.
C'est
en fait,
fantastique,
qui est à presque 2 200 000. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il joue toujours en salle.
Mm-hmm.
Alors, allez voir ce film. Et si vous l'avez vu, ben, il y en a d'autres aussi qui continuent d'être en salle. Et vous pouvez aller les voir. Et je parle ici du cinéma québécois, dont Les Hommes de ma mère. Et un peu plus tard, je vous parlerai de celui qui commence là, sa vie, c'est Révolution. Qui semble aussi très intéressant. Alors bon, ça c'est un de mes faits saillants. Je dirais que aussi, j'ai beaucoup de difficultés à passer par-dessus la rentrée scolaire. Parce que la rentrée scolaire, c'est beaucoup de choses. Et on l'a vu toute la semaine de façon assez négative, comme si tout était chaotique. Oui, il peut avoir. on peut pas nier cela. Mais il y a aussi les enfants émerveillés qui courent à l'école, qui s'en vont vers l'école, qui ont hâte de retrouver leurs amis, qui ont hâte de retrouver leur quotidien à eux. oui, dans une certaine organisation et de les voir les yeux aussi pétillants, c'est vraiment exceptionnel.
C'était beau. Lundi, j'ai passé à travers le plateau et il y avait beaucoup de familles qui prenaient la photo de l'entrée sur leur balcon. C'était très charmant, en fait.
Oui, c'est charmant, justement. Et on oublie de parler de tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme, je dirais, ben, c'est la dernière émission de l'été en ce qui nous concerne. La semaine prochaine, c'est le début de la programmation automnale. Et ici, à Canal M, dans notre émission au quotidien, 5e édition, nous allons allonger un peu notre temps. Nous serons en ondes pendant 2 heures. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui à l'émission, Monique Kerouac, notre fidèle collaboratrice de l'Estrie, notre historien Marcel Dugard, qui va nous parler du premier scientifique canadien, Michel Sarrazin. Je recevrai aussi Steve Joseph, qui est le directeur général de la Fondation des aveugles du Québec, qui va nous parler, entre autres, des activités de la rentrée à la Fondation, et aussi une entrevue avec Lina Plante, une femme extraordinaire que je vais vous faire découvrir, qui vient de publier un essai sur la liberté qui s'appelle « Macani ».
Et nous aurons aussi une chronique techno.
Oui.
Avec notre Francine.
Exactement. Ça, je ne l'oublie jamais.
Pas ailleurs, tu veux cesser de
Tu trouveras la paix dans ton cœur, c'était bien sûr René Claude.
Oui, je me disais que ça serait une belle façon d'être zen au cours de cette émission et de conclure notre saison. Voilà, alors le cadeau que je vous ai fait et que je me suis fait aussi,
ben oui.
René Claude, on a toujours plaisir à l'écouter. Bon, là, ça va être moins zen parce qu'on arrive au une et malgré tous nos efforts qu'on fait à chaque semaine, n'est-ce pas, Mathieu, depuis un mois, c'est pas toujours évident d'avoir des nouvelles qui sont réconfortantes. Je vais d'abord commencer par une nouvelle de dernière heure, une manchette de la Presse Plus qui parle d'un rapport du ministère de l'Éducation qui dit les inconduites sexuelles mal gérées dans les écoles. C'est un article de Tommy Chouinard et d'ailleurs, semble-t-il que le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, tiendra une conférence de presse à 10h30 sur ce sujet. Alors, le rapport dit qu'il y a de nombreux problèmes importants dans la gestion administrative des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats dans les écoles. Ce rapport, en fait, recommande un coup de barre pour mieux protéger les élèves. Il a été remis en juillet et rendu public ce vendredi. Ça fait suite, on se rappellera l'année passée, à différentes allégations concernant des situations de violence à caractère sexuel ou encore de comportements inadéquats. Une série de lacunes sont relevées. En fait, on dit que l'information ne chemine pas toujours entre les différents employeurs. Il y a une vision globale et cohérente du système d'encadrement qui est déficiente. Ensuite, on parle de processus de plainte qui sont sous-utilisés. Il y a aussi la formation des intervenants qui est limitée et la gradation des sanctions qui n'est pas toujours possible. D'ailleurs, à ce sujet, on recommande, entre autres, d'être plus agile et robuste dans le processus de plainte prévu à la loi et aussi d'étudier la possibilité d'éliminer les clauses d'amnistie prévues aux conventions collectives relativement à ces mauvaises conduites. Alors voilà cette manchette de dernière minute de la Presse Plus. Toujours dans la Presse Plus, on nous parle d'une base de données trop indiscrète. Cette base de données, elle est en force depuis décembre 2020 et Hugo Jonca, dans un écran de la presse, nous apprend que ce système, qui est utilisé pour faire le suivi des maladies à déclaration obligatoire, dont plusieurs infections transmissibles sexuellement, comme la syphilis, la gonorrhée et les infections à la chlamydia. Et cette base de données, contrairement à l'ancienne qui était utilisée, parce qu'on veut toujours moderniser nos systèmes informatiques, il faut se rappeler cela, parce qu'on n'est pas très, très à jour, n'est-ce pas? C'était un commentaire éditorial pleinement assumé, ce n'est pas dans l'article d'Hugo Jonca. Le problème ici, c'est qu'il contient l'identité des personnes concernées. Donc, des personnes qui peuvent être dans l'entourage ou qui ont été en contact avec une personne qui a contacté cette infection. Alors, évidemment que cette banque de données est mise de côté du côté de la CIUS parce que la direction la direction régionale de santé publique de Montréal a décidé que pour le moment on allait l'utiliser mais moins qu'on aurait peut-être pu le faire sans ces données qui étaient finalement un peu on n'a pas d'affaire à mettre ça là-dedans et que ça soit rendu public d'une manière ou d'une autre. Quand je parle de public, évidemment, c'est pas ouvert à tous, mais disons que dans le milieu, il y a probablement des gens qui n'auraient pas à être au courant de ça et qui pourraient l'être par cette banque de données. Dans la Presse Plus, toujours, on parle du REM ce matin, alors qu'on est bien étonné, du REM, mais aussi d'autres choses, plus qu'on parle de la situation à la gare centrale. Quand on descend du REM, la nouvelle signalisation qui débarque enfin. Donc, ce vendredi, il y a des ajustements qui avaient été promis à la gare centrale, entre autres par les dirigeants du REM qui vont être mis en place. Bon, on a parlé à maintes reprises que ça n'avait pas de bon sens, comment c'était tellement, quand on sortait du REM, on était complètement perdu, on n'était pas capable de savoir quelle direction on devait prendre pour aller prendre la station de métro ou encore pour se rendre dans le Montréal souterrain. Alors, semble-t-il que ça va être mieux, mais comme à l'habitude, évidemment, l'agence de transport métropolitain, ben, elle impute évidemment cette déficience au fait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués et que c'est bien compliqué de toujours faire ça dans des délais qui seraient, on peut dire, respectables. Je continue avec le REM toujours, et cette fois, c'est sur l'inaccessibilité du REM pour les poussettes, les vélos, les fauteuils roulants qui quand ils veulent justement accéder au métro. Bon, ce papier, il est dans le Devoir. Il est signé Stéphane Baillargeon. Alors, il est pratiquement impossible aux personnes à mobilité réduite de passer du métro Bonaventure au réseau express métropolitain à la gare centrale de Montréal, le cœur du système intermodal en développement de la métropole. Il faut se rappeler que c'est le cœur, hein? On insiste beaucoup là-dessus parce que, justement, il va se greffer autre chose autour éventuellement. Le parcours, il comprend des escaliers mobiles, des escaliers fixes et des portes tournantes infranchissables avec un vélo, une grande poussette ou bien sûr un fauteuil roulant. Pour prendre régulièrement ce chemin, parce que c'est le chemin que je prends pour me rendre au métro et que je passe à l'intérieur de certains édifices, je peux vous dire que même pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, qui n'a pas de vélo, qui n'a pas de poussette, qui a simplement, je dirais, les bras pleins, c'est compliqué. Alors, c'est potentiellement dangereux, ça ne répond pas aux normes d'aménagement des nouveaux édifices prévus au Code du bâtiment, et il va falloir ça aussi y voir, parce que ça ne peut pas continuer, étant donné justement que c'est le cœur. Alors, encore une fois, l'Agence du transport métropolitain a répondu par courriel au Devoir pour dire qu'il y a beaucoup d'infrastructures avec lesquelles elle doit travailler qui n'ont pas été conçues comme ça au départ. C'est sûr, quand on arrive à la gare centrale, c'est un fait, mais il invoque la complexité du dossier, encore une fois, qui regroupe plusieurs intervenants pour cette espèce d'immobilisme. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ça ressemble un peu à ça. Enfin, en dernier lieu, je vous parle d'une prison qui coûte une fortune. Dans le Journal de Montréal, on parle d'aberration à la prison de Sept-Îles. 1 900 $ par jour par détenu. Les contribuables doivent donc débourser près de 700 000 $ par année pour chaque personne détenue à Sept-Îles. Et c'est, Marc Sandrechi du bureau d'enquête du Journal de Montréal qui fait état de cette situation, et il compare le coût moyen d'un détenu à la prison de Leclerc à Laval, qui est de 579 $ la moyenne dans la province, c'est 496 $ par jour. Alors, disons que l'écart est assez important. Et bon, on donne pour exemple, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Évidemment, c'est hyper moderne, des télévisions plasma, des électroménagers en inox, etc., etc. Et c'est une prison qui compte 55 places, mais il y a seulement 26 détenus qui y sont présentement. Alors, c'était dans le Journal de Montréal par l'équipe d'enquête. Voilà. Alors, j'ai au bout du fil Monique Kirouac, tel un papillon monarque qui butine de nouvelle en nouvelle pour nous faire découvrir avec sa voix tout sourire sa région bien-aimée. Bonjour Monique!
Bonjour Francine, mon Dieu, mais vous êtes une poétesse dans l'âme!
Bien, si vous vous rappelez, il y a deux émissions, vous m'aviez comme lancé un petit défi, oui, et que je n'avais pas relevé immédiatement, et là je me suis dit, il faut que je fasse mes devoirs, c'est la dernière de l'été, même si vous allez continuer à être avec nous dans notre nouveau format d'émission. Mais C'est comme si c'était la fin de quelque chose. J'ai dit, voilà, c'est le temps de le faire.
Ah, oh, ben c'est super gentil. Alors,
je vous
ben,
écoute.
Écoutez, j'ai pensé vous suggérer quelques activités pour ce week-end dans les cantons de l'Est, dans l'Estrie, comme il sera très beau.
Mm-hmm.
Peut-être que quelques-uns de nos auditeurs et auditrices voudront se déplacer. Alors, il y a d'abord le centre d'interprétation de l'abeille, de la miellerie Lune de Miel, qui se trouve sur le troisième rang à Stoke, sur la route 216, qui invite les jeunes familles. Ça s'adresse donc spécialement aux jeunes enfants de 2 à 7 ans, mais les visiteurs de tous les âges peuvent se joindre à la visite en comprenant bien sûr que l'information va être simplifiée, adaptée aux jeunes enfants. Ce qui est extraordinaire, Francine, c'est qu'il y a une espèce d'immersion au cœur d'une ruche géante pour saisir l'organisation sociale des abeilles. Et bien sûr, il y a dégustation de miel, ce qui n'est pas à négliger.
Non, il faut au moins se rendre jusque-là si on va dans un endroit comme ça, hein?
Exactement. Sinon, ben, ou ensemble, si vous voulez, il y a une visite à la ferme Zoo Animation Estrie qui se trouve sur le chemin Réaume à Sherbrooke. Alors, si vous êtes amoureux d'animaux poilus ou à plumes, et j'en cite quelques-uns, alpagas, ânes, chèvres, chevaux, cochons miniatures, moutons, lapins, cochons d'Inde, chiens, chats, pains, canards et poules, ben, vous pourrez les caresser et les nourrir avec la nourriture qui vous sera donnée par le guide. Bien sûr, on veille au respect et au bien-être des animaux parce qu'il faut savoir qu'environ 40% d'entre eux proviennent d'abandon ou ils ont été tout simplement négligés. La durée de la visite est d'environ 60 minutes et vous pourrez terminer votre visite par une randonnée dans le sentier. Essayez la piste d'hébertisme en forêt et profitez de l'air de pique-nique et de jeu. Sinon, ou vous terminez votre journée avec une activité féerique à revivre, impossible de ne pas s'en émerveiller à tout âge. Il s'agit de Foresta Lumina, parcours nocturne illuminé au parc de la Gorge de Coaticook. C'est un parcours multimédia de plus de 2,6 km qui se déroule sur 11 zones, depuis le Jardin des Souhaits jusqu'au Secret de Marguerite.
L'avez-vous déjà fait, Monique, ce parcours?
Non, je ne l'ai pas fait. Non,
il paraît que c'est très beau. Moi non plus, puis à chaque fois qu'on en parle, je me dis toujours, comment on peut passer à côté de ça?
Oui, il faudrait le faire parce qu'ils ont beaucoup moins de visiteurs et de la concurrence, et le concept est peut-être en péril. Alors, faudrait y aller. Je vous parle maintenant d'un défi, Francine, un défi de taille qui sera relevé par 2 Estriens. Alors, il semblerait qu'ils sont à leur dernier préparatif et on parle d'Éloi Larrivée et Jean-Christophe René. Dans une semaine, les 2 amis de Hamnor s'envoleront vers l'Afrique avec un but en tête, gravir les 5 plus hauts sommets du continent. Ils vont traverser le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Leur objectif ultime est de répéter ce défi sur tous les continents. Les 2 jeunes hommes âgés de 26 ans se connaissent depuis plus de 2 décennies, donc ils étaient vraiment tout petits quand ils se sont rencontrés. Ils sont passionnés d'alpinisme depuis leur plus jeune âge. Ils sont aujourd'hui respectivement enseignants et militaires. Il faut dire que les 2 passionnés ont déjà relevé le défi en Amérique du Sud. Ils sont parvenus au final à grimper, non pas 5, mais 7 sommets, et ce, en beaucoup moins de temps que prévu, 5 mois plutôt que 7. Mais ce qui est spécial, Francine, c'est que pour se déplacer entre les montagnes, ils ont utilisé le vélo, ce qui représente environ 7000 kilomètres de route. Donc, on leur souhaite bonne chance pour la suite des choses en Afrique. Une bien triste nouvelle. Vous aimez les bleuets, Francine?
Ah oui, c'est sûr, et c'est la saison, non?
Ben, c'est terminé, là. C'est pratiquement terminé. C'est terminé, en fait. Mais je vous raconte une triste histoire. Lorsqu'elle est allée faire sa promenade habituelle avec son chien dimanche dernier, Mme Carmen Boutillette a eu droit à un tableau désolant. 100 plants de bleuets avaient été coupés sur sa propriété et celle de son conjoint, laissant du même coup d'importantes cicatrices sur la terre de bleuets et framboises boutillettes qui se situe à Bonsecours, un très joli village. La moitié des plants détruits avait 40 ans et l'autre moitié de 10 à 15 ans. Il faut savoir, il faut préciser, Francine, qu'il faut 15 ans pour qu'un nouveau plant produise le petit fruit bleu dont on raffole. Et pourquoi tout ça? Ben, Madame Boutillette craint que cet acte de vandalisme soit lié à son engagement dans les affaires municipales, alors que la poursuite visant Bonsecours et son maire, Jacques David, suscite beaucoup de questions. Voilà. Alors, c'est bien triste tout ça.
Vous savez qu'on a parlé à un moment donné, et entre autres au Congrès de l'Union des municipalités du Québec, justement, de ces gestes qui sont posés à l'endroit des élus municipaux.
Oui, mais elle n'est pas une élue, hein. C'est une citoyenne, qui se mobilise, en fait, parce que il y a un problème, là, assez sérieux, semble-t-il, avec le maire qui a changé le zonage d'une section qui est près d'un développement stocklé. En tout cas, c'est pas très joli, tout ça. Alors, c'est à suivre, mais on est désolé pour elle. Je suis allée cueillir mes bleuets, chez elle, il y a quelques semaines, et c'était tellement agréable.
Bon, en effet, quel que soit son statut par rapport à la municipalité, c'est toujours déplorable, ces gestes de vandalisme.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, c'est là-dessus qu'on conclut notre entretien de ce matin?
Ben, si vous voulez, je peux poursuivre. Hein? J'ai une bonne nouvelle en éducation.
Allez-y!
Elles étaient attendues depuis longtemps. Elles sont maintenant réalité. Jeudi, le Centre de services scolaires de Val-des-Serres a inauguré deux nouvelles écoles primaires à Grimbé, l'école des Perséides et l'école des Monarques, elles sont construites en respectant des environnements modernes pour accueillir environ 700 élèves, un environnement stimulant l'apprentissage, la créativité. Alors, on leur souhaite une bonne rentrée scolaire.
Bien, merci beaucoup, Monique, et à la semaine prochaine.
Au revoir, à la semaine prochaine.
Alors, rapidement, on va se transporter du côté de l'Outaouais, une région chère à Yvan Deslauriers, co-animateur de cette émission qu'on salue ce matin et qui sera de retour la semaine prochaine pour le début de notre saison régulière. Alors, trois rivières de l'Outaouais protégées, s'il s'agit d'endroits prisés par les amateurs de plein air, surnommés les trois sœurs en vertu de leur similitude et de leur proximité géographique, les rivières du Moine, Noir et Coulonges ont servi de route aux Autochtones qui migraient avec leurs familles vers leur campement de chasse. Alors, on termine vraiment sur une bonne nouvelle et au retour, on accueille Lina Plante.
Écoutez au quotidien, 5e édition avec Francine Forget. I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
L'unique Dolly Parton qui chantait 9 to 5.
J'ai compris que c'était un choix d'un jeune quand même.
Ben oui.
Oh, c'est Jean-Christophe Matt qui nous a fait entendre cette belle chanson, très entraînante. Je suis maintenant en compagnie de Lina Plante. Lina, elle est auteure de Macani, Dialogue sur la liberté. C'est un essai publié aux éditions Les Trois Colonnes. Bonjour Lina.
Bonjour Madame Forcette.
Ça va bien ce matin?
Oui, ça va très bien.
Avant de parler de votre première activité qui a lieu tout à fait récemment, hein, c'était hier, je crois, cette première conversation sur la liberté à partir de votre essai, j'aimerais ça qu'on revienne 25 ans, il y a 25 ans, alors que, je ne vais pas vous vieillir, là, mais quand même, vous avez une solide expérience en tant qu'entrepreneur et ça serait intéressant quand même que vous nous en parliez. D'autant plus que, je ne sais pas si c'est un déclencheur, mais quand même, vous avez été atteinte, et je parle au passé, puis vous allez nous expliquer pourquoi, d'une maladie congénitale héréditaire qui s'appelle le rein polykystique et ça vous a incité à œuvrer dans un domaine en santé et sécurité.
Oui, absolument. Et donc, malgré l'épée d'Amoclès de cette maladie congénitale, j'ai décidé il y a 25 ans quand même de partir ma propre entreprise, donc sans filet de sécurité. Alors, effectivement, donc j'ai créé Action SST, dont la mission était vraiment la prise en charge, donc c'est possiblement influencé par l'état de santé, mais dans le fond, c'était vraiment au niveau de la prise en charge, de la prévention par l'ensemble des membres des organisations.
Oui, et vous avez développé une entreprise là-dedans qui a connu quand même un très grand succès.
Oui, j'ai eu la chance que les plus grandes et les plus performantes entreprises au Québec réalisent justement que la santé et sécurité est importante là, pour leur entreprise.
Et cette entreprise-là, elle existe toujours?
Oui, elle existe toujours. On va fêter les 25 ans demain, justement. Donc, 25 ans déjà.
Elle s'appelle Action SST, je crois, c'est ça?
C'est bien ça.
Oui, c'est bien ça. Oui. Et cette entreprise-là, vous l'avez créée parce que vous désiriez quand même expérimenter des choses avec vos clients, avec les employés des entreprises sur la qualité de vie au travail.
Oui, et la mission de base était vraiment la prise en charge sur, dans le fond, ne pas laisser sa vie ou sa qualité de vie dans les mains de d'autres personnes que de reprendre son pouvoir sur sa propre qualité de vie. Donc, c'est vraiment cette mission-là qui était le cœur de l'entreprise.
J'ai parlé au passé de votre maladie congénitale héréditaire. Est-ce que j'ai bien fait?
Oui, c'est vrai que j'ai... Oui, très au passé, parce que à l'âge de 50 ans, même si j'avais le gène défectueux, il s'est heureusement pas développé. Donc, même les médecins ne comprennent pas vraiment, mais effectivement, ce gène-là ne s'est pas développé. Donc, heureusement que je ne me suis pas limitée là, à vivre ma vie selon mes inspirations.
C'est un cas rare, c'est ce que j'ai compris.
Oui, unique.
Unique.
Au niveau de la famille, c'est vraiment un cas unique.
Vous m'aviez parlé aussi que des résultats de tests et tout ça avaient été envoyés aux États-Unis tellement on était assez incrédule par rapport à ce qui vous arrivait.
Oui. C'est ça. J'ai eu plusieurs prises de sang. On envoyait ça en Californie et pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Donc, malheureusement, j'ai pas les résultats. J'ai rien. Mais de toute évidence, pour moi, je la femme la plus heureuse au monde. Donc,
je vous comprends. Je vous comprends.
Oui, c'est
des belles nouvelles.
Oui,
alors, donc, vous avez travaillé dans le milieu de l'entrepreneuriat en santé, sécurité du travail et tout à coup, vous êtes comme lassé un petit peu, non pas du milieu, mais du fait du rôle que vous aviez à assumer comme gestionnaire.
Oui, Oui, ben la croissance de mes entreprises, dans le fond, la croissance de mes entreprises m'amenait vraiment à jouer un rôle qui n'était pas nécessairement le mien. Et je me rendais compte que je forgeais mes propres barreaux de ma propre prison. Donc, en tant qu'entrepreneur, on vit un peu ça. À ces moments donnés, on réalise de dire, oh, OK, je me sens coincée ou je me sens moins libre. Alors, c'est à partir de ce moment-là, il y a quelques années, que je me suis mis à réfléchir et à faire des réflexions profondes sur ma propre liberté. Donc, et c'est ce qui m'a amené justement à écrire McKinney, donc le livre qui traite un dialogue sur la liberté.
Oui, le dialogue en fait entre McKinney, vous allez nous dire qu'est-ce que ça veut dire, et Beau aussi. Il y a un vis-à-vis.
Oui, tout à fait. Donc, c'était un dialogue entre McKinney. McKinney veut dire vent en hawaïen et beau veut dire vague en cantonais. Donc, pour moi, justement, le vent, lorsqu'on parle de liberté, la liberté, bon, le vent, est, souvent, on ne peut pas le contrôler. Il y a des choses. Des fois, il y a un beau temps, il n'y a pas de vent, mais il y a d'autres occasions, comme on a connu dernièrement des orages, des ouragans, donc qui se produisent également dans nos vies. Donc, comment être capable de préserver sa liberté à travers tout ce qui peut nous arriver dans notre vie?
Écoutez, je comprends que ce livre, pour l'avoir parcouru, malheureusement, j'ai pas eu le temps de terminer la lecture, je vais être bien franche avec vous, c'est un appel à une conversation.
C'est un appel à une conversation, c'est un appel à réviser et à brasser certaines de nos croyances entourant la liberté et sur différents sujets pour justement amener une réflexion profonde sur sa propre liberté.
Et hier, c'est hier, hein, c'est ça?
Oui,
c'est hier, vous avez tenu une rencontre à Québec,
oui,
dans
oui.
un très bel endroit. Et comment ça oui. s'est passé?
Écoutez, je suis encore sous l'émotion. Ça s'est vraiment très bien passé. C'était une belle soirée. C'était au Centre Marine, ici à Québec. Une bibliothèque vraiment inspirante. Et écoutez, on a échangé justement sur, parce que j'ai eu mes premiers commentaires de mes premiers lecteurs. Donc, ça fut très, 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 très intéressant.
Et quelle a été leur perception? Quels a été finalement les éléments qu'ils ont retenus de cet essai?
Ben, écoutez, ce fut très positif. Peut-être trois grands éléments qui ont ressorti suite à la lecture. Certains ont dit que ce serait peut-être intéressant que ce type de réflexion puisse se faire à un plus jeune âge. Je trouvais ça intéressant parce que dans ma conception ou dans ma pensée, je croyais vraiment que ce livre-là allait intéresser davantage des gens un peu plus avec une certaine maturité. Mais et plusieurs commentaires m'ont dit que ce serait intéressant que ce genre de livre de réflexion-là se fasse beaucoup plus jeune. Donc, un deuxième commentaire, c'était à l'effet que, suite à la lecture, ce qu'ils retenaient, c'est qu'ils avaient la responsabilité de leur propre liberté. Donc, ça aussi, je pense que c'était intéressant. Et un troisième commentaire, et celle-là, bon, écoutez, certaines personnes, c'était pour eux, la lecture de ce livre, on trouvait ça très puissant. C'est-à-dire parce que, possiblement, qu'ils avaient revisité justement leurs propres croyances. Parce que, vous savez, le livre, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette toute prête d'avance. Donc, c'est vraiment un appel à revisiter nos propres croyances. Là. Donc, et faire une bonne réflexion sur sa propre liberté. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que pour certaines personnes, c'est venu les chercher.
Mais c'est bien, en fait, ça va dans le sens de ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire
Oui,
engager la
absolument.
conversation sur la liberté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Lina Plante, qui, je le rappelle, a eu une carrière fructueuse. Je parle au passé, mais ça se peut qu'un jour, hein, on redevienne entrepreneur. Pourquoi pas, quand
Oui.
on a du sang, quand on a ça dans notre sang, dans nos veines, hein, on ne sait jamais quand l'appel se fait sentir. Et qu'il est l'auteur, c'est son premier essai, son premier livre, en fait, qu'elle publie, hein, c'est ça, Mme Plante,
oui,
c'est votre premier,
absolument.
oui.
Et il est
Oui.
disponible dans toutes les grandes librairies ici à Québec. Il est sorti en Europe il y a 3 mois. Et au Québec, chez Archambault, Renaud-Bray et sur toutes les plateformes numériques telles que Kobo et Kindle.
Donc, Makani, dialogue sur la liberté. Merci, Lina Plante.
Ben, merci à vous, Mme Forgette.
Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Ça va
bien?
Oui, ça va bien. Écoutez, on s'en va loin, hein. Souvent, vous nous ramenez dans d'autres époques, d'autres pays. Mais là, on reste chez nous, mais ça se passe en 1659 et c'est l'occasion de parler de Michel Sarrazin, que vous dites à juste titre est reconnu comme le premier scientifique canadien.
Oui, c'est ça. C'est loin dans le temps, c'est proche géographiquement. Vous savez, Francine, il y a une chose, moi, qui m'impressionne toujours, c'est la grande polyvalence de beaucoup de scientifiques et de penseurs d'autrefois. À des époques où la connaissance dans à peu près tous les domaines était moins avancée qu'aujourd'hui, il y avait de ces esprits qui ne pouvaient se retenir d'explorer toutes sortes de domaines. Et je vous donne juste un exemple. Isaac Newton, grand scientifique britannique, il était mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien. Ça fait des journées bien remplies.
Oh, Marcel, je m'excuse, on retrouvait ça aussi. C'était comme chez les artistes. Je pense à Michel-Ange, ensuite à des artistes italiens aussi là, qui étaient comme ça, hein, scientifiques, artistes, écrivains.
Tout à fait, musiciens et astronomes comme William Herschel, par exemple, qui a découvert la planète Uranus. C'était juste un exemple que je voulais vous donner, mais effectivement, les gens faisaient énormément de choses. On n'était pas dans la surspécialisation comme aujourd'hui. Et on a eu, à l'époque de la Nouvelle-France, un homme qui était dans ce même moule-là. Être à certains moments le seul médecin dans toute la vallée du Saint-Laurent ne l'a pas empêché d'être botaniste, zoologiste, naturaliste et d'entretenir des correspondances poussées avec plusieurs grands scientifiques de son temps. Michel Sarrazin est né en Bourgogne-Franche-Comté, en France, en 1659, et on n'a aucun détail sur sa vie avant son arrivée en Nouvelle-France, et on ignore à quoi il ressemblait. Comme c'est le cas de plusieurs personnages de son époque, on n'a pas de portrait attesté de lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il débarque à Québec en 1685 à titre de chirurgien de la marine. Il est ensuite promu chirurgien des troupes françaises dans leur ensemble. Il pratique à Montréal, à Québec. Il se rend au pays des Haudenosaunis, les Iroquois, où il commence à faire des observations arboricoles. Mais à ce moment-là, c'est rien de majeur. Il y reviendra plus tard. Il tombe très malade en 1692. Il passe un mois à l'hôpital. Il y a un épisode assez confus où il aurait contemplé la vie religieuse. Mais finalement, les gens qui ont raconté, qui ont parlé de lui dans des lettres ont dit qu'il n'y avait aucunement la vocation et il est beaucoup plus utile en tant que chirurgien. Il va retourner en France où il va étudier la médecine. Parce qu'à l'époque, on pouvait être chirurgien sans être médecin. Surtout un chirurgien militaire, sa principale occupation, c'était probablement amputer des membres. Mais lorsqu'il revient en Nouvelle-France en 1697, à la demande expresse de l'intendant de la colonie. Là, il occupe les doubles fonctions de médecin et de chirurgien, auxquelles il va ajouter celles de naturaliste et botaniste. Pendant son séjour en France, il avait fréquenté le Jardin royal des plantes, qui est l'ancêtre du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et il revient à Québec très intéressé par ce domaine-là, à un point tel que les dirigeants de la colonie craignaient qu'il décide éventuellement de retourner en France pour se consacrer à temps plein à l'étude des plantes et des animaux. Quand on réussissait à ce moment-là à avoir un médecin au Canada, il fallait s'assurer de ne pas le perdre. C'était une denrée rare. Cette crainte-là, finalement, n'a pas été justifiée. Sarrazin va pratiquer la médecine chez nous jusqu'à la fin de ses jours. Il se met d'ailleurs au boulot à bord du navire qu'il ramène après ses études en France. Une épidémie se déclare à bord. Il doit donc soigner tout le monde et se soigner lui-même. Il a attrapé plusieurs des maladies contagieuses qu'il a combattues à cette époque où les épidémies étaient fréquentes. De plus, il pratiquait des autopsies. Il était appelé comme témoin dans des causes judiciaires. Et on a retrouvé une note écrite de sa main où il parlait d'une jeune odénosonie qui avait été enterrée et dont le corps s'était décomposé. Jusque-là, tout est normal. Sauf son bras qui tenait un crucifix. Celui-là s'était parfaitement conservé. Il avait observé un miracle. Tout ça, ça faisait partie des tâches d'un médecin dans une colonie comme la Nouvelle-France. Et dans ses temps libres, il se consacrait à l'observation de toute cette nature sauvage que l'on retrouvait au Canada, qui était inconnue des Européens. Et il commence à envoyer des spécimens de plantes et de graines natives de ce pays mystérieux et devient en 1699 correspondant nord-américain de l'Académie royale des sciences de Paris, une organisation qui regroupait plusieurs des plus grands savants de France et d'ailleurs. Certaines plantes d'Amérique que Sarrazin avait envoyées à ses interlocuteurs du vieux continent au début du 18e siècle se trouvent encore aujourd'hui dans les herbiers du Muséum national d'histoire naturelle en France et dans celui de l'Université Oxford en Grande-Bretagne. D'ailleurs, il y a un professeur du Jardin royal de Paris qui prenait les échantillons et les notes que Sarrazin lui envoyait. Il complétait le tout et ça a donné le catalogue des plantes du Canada, un des premiers traités jamais faits sur notre flore. Et Sarrazin a découvert plusieurs types de plantes qui étaient inconnues des Européens, dont une qu'on a baptisée en son honneur. C'est une plante carnivore qui s'appelle la Sarracénie pourpre.
Mais une plante envoyait... carnivore, eh bien!
Oui, ben, ça mange pas des humains, évidemment, ça mange des petits invertébrés, mais c'est considéré comme une plante carnivore quand même. Sarrazin n'envoyait pas par ailleurs que des plantes, graines et fleurs séchées. Il envoyait aussi des plantes vivantes en France qui devaient faire le long voyage en espérant qu'elles survivent et qu'on puisse les utiliser au Jardin royal. Et l'intendant de la Nouvelle-France va donner ordre aux marins de placer les plantes sur le pont des navires qui retournaient en France plutôt que de les balancer au fond de la cale et de les oublier là. Il devait même se transformer en jardinier et s'assurer que les plantes ne manquaient pas d'eau. C'était probablement pas la partie du travail que ces braves matelots préféraient. Sarrazin écrit aussi un traité sur les érables du Canada et des textes qui paraîtront dans bon nombre de publications botaniques faites par les maîtres français. Il disséquait aussi des animaux nord-américains et faisait part de ses observations à l'Académie des sciences, qui a publié certains de ses écrits. Ça donnait des titres comme « Histoire naturelle et anatomique du castor », « Histoire d'une espèce de rat d'Amérique septentrionale », le rat musqué, ou encore « Monographie anatomique du siffleux ». Donc oui, on utilisait le terme « siffleux » déjà pour parler des marmottes dans les années 1700. Et il disséquait ces animaux-là avec sa trousse de chirurgie humaine. Est-ce que c'était hygiénique de faire ça? Probablement pas. Il a aussi tâté de minéralogie. Bref, c'est véritablement un touche-à-tout. Et non seulement il faisait ça dans ses temps libres, mais il le faisait aussi dans des conditions difficiles. Un botaniste au Canada, à cette époque-là, ne pouvait pas aller et venir en toute quiétude dans la forêt. Il y avait toujours un risque de rencontrer des membres des Premières Nations plus ou moins réceptifs à votre présence.
De toute façon, il devait se poser des questions, hein, j'imagine. Pourquoi faire l'étude de tout ça? À quoi ça pouvait servir?
Évidemment, les Premières Nations avaient quand même une bonne connaissance des plantes et les Européens ont beaucoup profité. Mais je pense pas qu'effectivement, il y avait des gens qui faisaient une recension complète de tout ce qu'on retrouvait dans la nature et devaient effectivement trouver ça un peu étrange. Ceci dit, si Sarrazin, le scientifique, s'est forgé une réputation enviable, Sarrazin, l'homme d'affaires, a connu plus de revers de fortune que de succès. Parce que c'était acquis une réputation de chialeux à la cour de France, on va le dire. Il était médecin royal, donc son salaire venait directement de la couronne, et c'était un salaire bien modeste. il était le seul médecin du Canada. Il recevait un salaire quatre fois moins élevé que le médecin royal de la colonie de Louisiane. Et on n'a jamais su exactement pourquoi. Il va donc chercher à augmenter ses revenus, surtout après son mariage. Il s'est marié sur le tard, en 1712. Il épouse Marianne Azer, une jeune fille de la bonne société de Québec. Et « jeune fille », ce n'est pas un terme que j'ai choisi au hasard. Elle était 33 ans plus jeune que lui.
Mm-hmm.
Ils ont quand même été mariés pendant deux décennies et ont eu 7 enfants, dont 4 qui ont atteint l'âge adulte. Et c'est un bon mariage pour le docteur Sarrazin qui reçoit des portions de seigneurie et de fief en dot de sa femme. Et le minéralogiste qu'il est a découvert une carrière d'ardoise sur ses terres, va tenter de l'exploiter, c'est un échec. Il va aussi lancer une entreprise de pêcherie qui va engloutir, pardonnez-moi le jeu de mots, une bonne partie de ses économies. Bref, malgré le fait qu'il s'est dévoué pendant près de 40 ans pour les malades, malgré tout ce qu'il a apporté à la connaissance de notre faune et de notre flore, Sarrazin ne laisse presque rien à sa veuve lorsqu'il décède en 1734. Il a laissé assez peu à la postérité. Ce n'est pas un personnage très connu aujourd'hui. Si le nom vous dit quelque chose, il est possible que ce soit parce qu'on retrouve à Québec une maison de soins palliatifs pour personnes atteintes du cancer,
qui existe
depuis 1985. C'est la plus ancienne du genre au Canada. Et on l'a nommé Michel Sarrazin parce qu'il a procédé en 1700 à une des toutes premières ablations de tumeurs cancéreuses de l'histoire nord-américaine. Et la patiente a survécu 40 ans après l'opération, ce qui est tout à fait inouï pour l'époque. C'est véritablement une des rares traces qui demeure de ce grand médecin et scientifique de chez nous.
Comme à l'habitude, Marcel, vous nous avez fait découvrir quelqu'un parce que, oui, on connaît la maison de soins palliatifs, mais des Michel Sarrazin, il y en a eu quand même quelques-uns, là, hein? C'est pas le seul. Donc, de nous faire comprendre qu'il y avait derrière ça un homme qui méritait qu'on lui rende cet hommage. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
J'ai fait allusion un peu plus tôt à la fin de notre saison d'été et au début de la saison automnale. Donc, la semaine prochaine, le 8 septembre, nous entreprenons notre saison automnale dans un nouveau format, c'est-à-dire que nous serons en ondes 2 heures avec vous plutôt qu'1h30 pour notre plus grand plaisir à Yvan Deslauriers et moi-même. Je vous rappelle que même si on parle d'un nouveau format, oui, il y aura des nouveautés, mais il y a quand même des choses qui restent. Comme notre entrevue Au-delà des limites, notre entrevue qui met l'accent sur des réalisations, sur des succès, sur des échecs aussi, ça peut être des projets qui sont en élaboration, de personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont certaines limites. Vous serez peut-être intéressé à être de notre émission. Et si c'est le cas, je vous invite à nous écrire. Mathieu, si les gens veulent nous faire part de leur intention, est-ce que on a une adresse où on peut les référer?
Oui, donnez-moi un petit instant.
Ah oui, ben allez-y. Je vais continuer. Quand vous serez prêt, vous me le direz. On va aussi entreprendre de suivre sur les médias sociaux certains d'entre vous. Et là aussi, si vous êtes intéressé parce que vous êtes très présent sur les médias sociaux et que vous avez des messages que vous voulez partager en ondes avec des gens de votre communauté ou d'autres, ça nous fera un plaisir de le faire. Et encore une fois, il serait bien que vous nous fassiez part de votre intention en nous écrivant. Maintenant, si vous voulez savoir de quoi ça a l'air, tout ça, ces entrevues qu'on fait, je vous invite à aller sur Au quotidien, 5e édition, sur le site de Canal M. Et vous allez voir que sur les émissions, il y a toujours des boutons sur lesquels vous pouvez appuyer pour arriver à l'entrevue comme telle. Aussi, nous allons continuer tout en vous faisant découvrir d'autres organisations ou associations qui œuvrent dans le domaine et qui vont continuer de vous faire part, comme on va le faire bientôt après la pause, qui vont continuer donc à vous faire part de leurs activités et qui vont vous inviter finalement à utiliser votre, leur service. Alors?
Vous pouvez, entre autres, nous écrire à régievusezvoix.com. Aussi simple que ça. Et moi, je vais vous faire parvenir la communication.
Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, ben, on attend.
Quotidien, 5e édition, avec Francine Forget.
Nous sommes maintenant rendus à la chronique techno. Je vais commencer par vous parler de mauvaises habitudes du numérique. On en a beaucoup parlé récemment. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, Mario Girard, dans la presse, a fait une chronique sur... comment ça pouvait être dérangeant, là, ces gens qui se promènent avec leur téléphone en main libre dans un lieu public, dans le métro, etc., et qui partagent finalement leur conversation sans se soucier du fait que ça peut peut-être déranger les gens qui sont autour. Et on a aussi beaucoup, beaucoup parlé cette semaine du téléphone en classe, parce que ça aussi, ça dérange. Et il n'y a pas de directive, on s'attend à une directive ministérielle pour l'interdire. Je vous avoue que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre, parce que je pense que chaque école pourrait avoir ses règles à cet égard. Mais bon, encore une fois, c'est un commentaire éditorial très, très bien assumé. Je vais vous entretenir plutôt de règles de bienséance qu'on devrait avoir. Et c'est basé sur un article de PresseCitron.net sous la plume de Jean-Yves Alric. Première chose, on a parlé du téléphone. Écouter le son très fort sur son téléphone ne devrait pas faire partie des bonnes pratiques. Ils ont fait des sondages et ça dérange. Il y a au moins 40% des gens qui ont dit qu'ils ne voulaient pas écouter la musique du voisin. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes goûts musicaux, hein, ça se peut, mais peut-être aussi qu'ils veulent réfléchir à autre chose, ne pas être dérangés, etc. Alors, c'est encore une fois une pratique liée à l'usage du téléphone dans des réseaux publics. Une autre pratique qui est dérangeante, semble-t-il, c'est de mettre en bas d'un envoi « envoyé depuis mon iPhone ». En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir que vous avez un iPhone. On sait qu'il y a des centaines de millions d'iPhones en circulation dans le monde. Donc, le fait d'en posséder un ou pas, ça ne vous rend pas exceptionnel. C'est aussi direct que ça dans l'article.
Ça leur fait de la publicité aussi.
Ça leur fait de la publicité, mais j'ai jamais compris, moi non plus, pourquoi on mettait ça. Est-ce que quand on a un iPhone, on est mieux que ceux qui sont avec Samsung ou d'autres compatibles Android?
C'est drôle, moi j'ai toujours pris ça comme « vous êtes en train de me déranger, je suis sur la route ».
Ah oui?
Oui.
Donc, il y a une mauvaise perception. C'était temps qu'on le dise très fort. De se laisser déborder par un trop grand nombre de courriels, c'est aussi une pratique qui ne devrait pas être en vigueur. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que le courriel a été utilisé au départ parce que c'était un moyen rapide de communication. Et maintenant, c'est devenu un moyen qui n'est pas rapide, mais pas du tout, du tout, du tout. Utiliser des moteurs de recherche qui ne sont pas partagés par plusieurs répondants, comme par exemple, on dit « faut utiliser Google », c'est sûr qu'on fait de la publicité à Google, mais quand on va sur d'autres plateformes, comme par exemple Bing, ben ça ne permet pas d'avoir toute l'information dont on pourrait avoir besoin. Et enfin, le dernier dont on parle, c'est d'utiliser la messagerie Hotmail en 2023. Alors, si vous avez encore une messagerie Hotmail, ça, je peux vous dire que ça fait longtemps qu'on dit que c'est pas crédible quand on s'adresse à d'autres personnes, puisque Hotmail, au départ, a été surtout conçu pour des relations interpersonnelles et non pas des relations professionnelles. Ah oui, je vois que vous avez un gros doute, Mathieu.
Non, non, c'est pas un doute, mais je veux dire, est-ce que je vais remarquer quel service la personne utilise quand je reçois un courriel d'une personne? Je dois avouer que ça me passe bien loin au-dessus de la tête. Que ce soit un Gmail, un Yahoo, je vois pas en quoi ça change la crédibilité du message. Mais ça, c'est une vision personnelle.
Oui, la sûreté, en tout cas, la sécurité.
Peut-être, dans ce cas-là, oui, mais...
Oui, mais comme je vous dis, c'était surtout que c'était, il traîne un passé qui est de pas sérieux. De pas sérieux. Est-ce que vous avez un Hotmail, là? C'est pour ça que je viens de vous piquer,
non, pas du tout, non. Non, non, j'ai deux adresses et la même, j'en ai une des deux qui je dois l'avoir depuis que j'ai 13 ans, peut-être.
Oui, OK. Et ce n'est pas une adresse Hotmail.
Absolument pas.
Bon, alors c'est bon. Ça va très, très bien, votre affaire.
Je suis plus crédible, c'est ça que vous me dites?
Oui, c'est ça. Non, en fait, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est simplement que c'est vraiment c'est basé sur plusieurs sondages et c'est vraiment des tendances qui énervent le monde. Qui énervent le monde, comme d'avoir son téléphone... Son téléphone ouvert et puis de pas penser qu'on peut mettre des écouteurs ou encore qu'on peut le porter à l'oreille. Deuxième partie de cette chronique, c'est une infolettre de Bruno Guglielminetti que je voulais vous lire, qui s'appelle « C'est la rentrée numérique ». C'est comme une petite histoire. Hein. Il a imaginé une rentrée scolaire 2.0. Alors, ça commence par dire qu'on achèterait des fournitures numériques dans un contexte comme celui-là. Donc, il n'y aurait pas de cahier, de crayon. On mettrait à jour tous les logiciels et on choisirait de nouveaux abonnements à des services en ligne. Ensuite, il y aurait le jour des amis. Tout comme en classe, où l'on retrouve ses camarades dans notre monde 2.0, ce serait le jour pour faire le ménage dans nos contacts. On pourrait même planifier des visites virtuelles avec des amis qu'on a négligés durant l'année. Alors, j'ajoute que ça nous permettrait peut-être de de renouer avant d'arriver sur les lieux de l'école. Puis, il y aurait place à un bulletin d'information sur Internet. Donc, pas de bulletin scolaire, pas d'antivirus qui vous donnerait une note sur la protection de vos données, juste vraiment... être un citoyen numérique modèle et à ce moment-là, avec le bulletin d'information sur Internet, ce serait le cas. N'oublions pas la récréation. Après tant de sérieux, un petit jus en ligne, ça fait pas de mal. Mais attention, le maître TikTok y veillerait et la sonnerie retentirait au bout de 15 minutes. Donc, ça serait contrôlé. On ne pourrait pas envahir un cours avec ce petit jeu TikTok. Ensuite, arriverait le cours d'éthique du net. Alors ça, c'est vraiment important, et ça, je pense qu'on devrait l'avoir dans toutes les écoles. C'est le respect, la courtoisie à l'école. Une petite leçon sur la netiquette s'imposerait. J'imagine que vous savez ce qu'est la netiquette, c'est-à-dire c'est la bienséance sur le numérique. Donc, on devrait revoir les règles de base, c'est-à-dire ne jamais crier en majuscule, respecter l'opinion des autres et surtout penser avant de cliquer et que ça serait bon, penser avant d'écrire. Il y aurait un cours de culture web, un peu comme en histoire, et on revisiterait les moments marquants de l'Internet, l'apparition des premiers moteurs de recherche, la naissance des réseaux sociaux et bien sûr les mémés qui ont fait l'histoire. Et terminer la semaine, quoi de mieux qu'un bon examen surprise? Il n'y aurait pas, ça ne serait pas un test de maths ou de grammaire, ça serait un univers numérique qui serait un quiz sur la cybersécurité pour être sûr que, franchement, on ne fait pas de relâchement de ce côté-là et pour apprendre ou se remémorer comment on fait un mot de passe sécurisé. Voilà. Alors, ça serait bien hein, quand même. C'était une petite infolettre de Bruno Guglielminetti pour la rentrée. Et au retour, la Fondation des aveugles du Québec avec Steve Joseph.
don't you stay? I feel lucky today. Give me a chance and I'll show you the way. I know someday you'll be mine. You will know too, it's a matter of time. Heartbeat again.
La chanson « Happiness » de Rodrigo Leoa.
Ah, c'est beau. C'est comme la suite de la première chanson de René Claude, hein? « Tu trouveras la paix ». Bonjour, Steve Joseph.
Bonjour.
Qui est directeur général de la Fondation des aveugles du Québec. On est en plein débat, Steve. Est-ce que vous avez une adresse Hotmail, vous?
Hotmail, moi, oui. Hotmail, la mienne.
OK, c'est bon. Alors, je veux juste réitérer le fait, parce qu'ici, il y a eu des réactions en studio, que...
C'est parce que je suis vieux, là, hein?
Non, c'est pas ça. C'est parce que je viens de parler du résumé d'une enquête qui a été faite, et on disait qu'une adresse Hotmail, c'était un peu dépassé. C'était pas nécessairement ce qui était plus crédible et tout ça. Alors, je veux juste rappeler que c'est la perception de gens qui ont répondu à une enquête.
Ah,
et
ben
voilà,
oui.
Chose dite, chose faite. Ce n'est pas le but de nécessairement vous inciter à procéder à changer vos adresses
partout. C'est vrai que je change partout parce qu'on a aussi les gens qui disent « Hey, t'as-tu un Facebook? » Puis là, les gens disent « Ah, Facebook? » Mais non, il faut que tu dises « T'as-tu un Insta? » Parce que là, t'es vieux, Facebook. Là,
c'est
là,
exactement c'est fini, ça. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je pense que là, par rapport aux gens en studio, je pense que je suis en train de me caler avec ce que vous dites parce que c'est vrai que Hotmail et Facebook, c'est relié à un certain âge. Et notre propos ce matin n'est pas là-dessus parce qu'on veut vous écouter sur votre calendrier des activités pour l'automne et principalement les nouveautés.
Exactement. Donc, c'est sûr et certain qu'en parlant de vieillesse, ben là, nous autres, on se dirige vers la jeunesse, loisirs jeunesse, nous autres, qu'est-ce qui se passe en automne. Une nouveauté cette année, on a le club de VTT de Portneuf qui nous ont rejoints en mai dernier pour nous dire « Hey, on aimerait ça faire quelque chose pour vos jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vos jeunes? » On a un club de VTT, on pourrait faire, dans leur jargon, une « ride ». Avec eux autres en forêt et tout ça. Et on a dit, ça fait une bonne idée. On a essayé de chercher où est-ce qu'on va faire ça. Alors, ça sera cet automne, le 30 septembre prochain, qu'on va commencer nos activités avec ça. Je vous dirais que c'est sur 100 km qu'on va faire la ride avec eux autres. Oui, sur 100 km. Puis on va finir avec la soirée au restaurant. Et puis c'est tout dans le bout de Portneuf, là.
Oui,
exactement. Alors, c'est quelque chose de nouveau.
C'est vraiment au cœur de la nature, à part ça. Hein? C'est ça que j'ai compris.
Oui, vraiment, là. Puis je vous dirais que c'est une première avec la Fondation des aveugles. Puis j'espère pas une dernière non plus.
Là, vous avez une date de prévu, hein? C'est ça, c'est le samedi 30 septembre.
Exactement, oui, le 30 septembre. On a l'incontournable magie de la pomme, évidemment. Ça, c'est dans le cadre de nos activités familiales qu'on fait une ou deux par saison. On essaie de faire une ou deux par saison, activités familiales. Alors, on a la cueillette de pommes. Et on a aussi Hopla. Hopla, c'est des trampolines qui sont au Mont-Saint-Grégoire. Et c'est des trampolines extérieures. Et c'est comme un village construit à la cime des arbres. Donc, en trampoline, il y a des ballons, écoute, tu peux jouer à plein de choses en trampoline. Et en plus de ça, le soir arrivé, ça s'illumine, c'est super beau. Donc, c'est quelque chose que, dans le fond, sans faire le genou, mais à voir et puis à profiter encore là de la nature.
Steve, ça, c'est une nouvelle activité aussi, hein?
Exactement, une nouvelle activité à la Fondation des aveugles du Québec.
Oui, et hop là, on parle de UPLA, juste pour être sûr, là, parce que c'est pas tout le monde qui connaît nécessairement cette activité à la trampoline. Alors, continuez.
Oui, et puis par la suite, on a la faculté de médecine de l'UDM, de l'Université de Montréal, qui nous a rejoints. Et puis, on aimerait ça faire quelque chose pour les aveugles, parce qu'on étudie avec un de nos membres qui a une déficience visuelle et que là, on aimerait comme lui rendre hommage en organisant quelque chose avec les aveugles. Donc là, ils ont dit, on aimerait organiser un tournoi de goalball, qui est le sport national des aveugles, le goalball. Et puis, on a dit, pourquoi pas, et qu'on a commencé à travailler avec eux autres. Puis, ça va être organisé, un tournoi de goalball au cégep André Grasset, le 4 novembre prochain. Il va y avoir des invités, il va y avoir des conférenciers à cette place-là, il va y avoir plein de jeunes des écoles aux alentours qui vont participer au goalball. Donc, ça va être une première, ça aussi. Et puis, et en espérant pas une dernière. Ça serait aussi une genre de levée de fonds qu'ils font à travers ce tournoi-là.
Quel est l'intérêt de la faculté des étudiants en médecine là, de l'Université de Montréal de s'engager dans une activité comme celle-là?
Mais comme je parlais au responsable à un moment donné, il m'a dit que, c'est bon pour leur CV d'avoir fait du bénévolat, d'avoir organisé quelque chose. Il y a aussi le fait qu'ils se sont organisés pour rendre hommage à un de leurs collègues qui a un handicap visuel et qui étudie avec eux autres aussi. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est toujours bon, mettons, pour une faculté de s'investir et de se consacrer pour des organismes communautaires comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts? Y a-t-il des intérêts personnels de chacun et l'autre? Je ne peux pas vous dire. Mais ça, c'est un des intérêts, les trois intérêts que j'ai parlé à la personne. Parce qu'il a aussi contacté d'autres organismes pour handicapés visuels, qui un organisme qui va leur prêter, mettons, du matériel, tout ça. Fait que pour eux autres, c'est quelque chose de gros. Et puis, on espère que ça va continuer par la suite.
Oui. En fait, tout le monde y trouve son compte, c'est ce que je comprends.
Oui. Évidemment. On a les journées ACPEV avec l'Association québécoise des parents pour enfants handicapés visuels qui va avoir lieu aussi le 11 novembre prochain. Ça, c'est dans le fond, cette association-là organise des journées, exemple, des journées de conférences avec les parents. Et puis, nous, on s'occupe des enfants, des parents, pendant que les parents, eux autres, sont en colloque, qu'on pourrait se permettre de dire là.
Oui, j'imagine que l'association nous en parlera, puisque c'est l'association fait partie de nos amis de l'émission. Alors, elle devrait être en onde pendant notre prochaine saison.
Et eux autres, l'association fait partie de nos amis tout court, nous autres.
Bon, mais c'est bon. Alors, donc, c'est le fun, hein? On est dans la gang, comme on dit.
Oui. Et même que là, on finit avec notre traditionnel dépouillement d'arbres de Noël, qui a été tout un succès l'année passée, avec 120 personnes, buffet, DJ, repas, et tout, vraiment. Et on l'a fait, justement, en association avec l'ACPEV, qui sont venus participer, qui l'ont fait avec nous autres, le dépouillement d'arbres de Noël, qui va être le 3 décembre prochain. Donc, tout ça pour dire que ce calendrier est assez rempli.
Très.
Ce calendrier, et à travers ça, ben, c'est sûr qu'on va essayer de faire des levées de fonds, de pouvoir participer à d'autres activités, ou bien même commencer à travailler sur peut-être, là je dis peut-être, mais on le dira pas trop fort, un voyage en 2024 ou début 2025.
On va avoir l'occasion de s'en reparler parce que vous allez
bien
continuer
sûr.
À nous parler, n'est-ce pas, pendant cette prochaine saison. Vous allez revenir en onde à peu près dans un mois et demi. Et à ce moment-là, on pourra revenir certainement sur la randonnée en VTT et sur peut-être la magie de la pomme, on verra. Et peut-être d'autres nouvelles que vous aurez à partager avec nous. Alors, merci d'être des nôtres, Steve Joseph, qui est directeur général de la Fondation des aveugles du Québec. À bientôt!
Bye-bye!
Est-ce que c'est déjà la fin?
Eh oui, inéluctablement, on se dirige vers 11h.
Mathieu, est-ce que vous avez des suggestions à nous faire?
J'en ai quelques-unes.
Pour le week-end, ben, allez-y donc,
de
commencez
tout
donc.
Il y aura au parc olympique la tournée des camions de cuisine de rue. Et cette année, c'est le Vietnam qui est à l'honneur. Donc, si vous avez envie d'aller déguster des plats typiques du Vietnam, rendez-vous au parc olympique, c'est en fin de semaine. Il y aura aussi, bien sûr, on en parle depuis quelques jours, le WordPress Photo au marché Bon Secours, qui aura lieu jusqu'au 15 octobre. Donc, vous avez amplement le temps d'aller visiter cette fantastique exposition. Il y aura aussi le pique-nique électronique au parc Jean-Drapeau, pour ceux qui veulent se bouger le popotin. Entre autres, il y aura Mistress Barbara, etc. Pour ceux qui aiment le sport, il y a un match des Alouettes le 2 septembre au parc Percival Molson. Ce sera contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et Jean-Christophe me passe un papier qui me dit « Il y aura aussi la fête de la musique de Tremblant du 1er au 4 septembre. »
Oui, effectivement, ça commence aujourd'hui et ça se poursuit pendant tout le week-end. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'activités à faire. Il y a des activités à l'intérieur, mais il y en a aussi beaucoup à l'extérieur. Je vais vous parler évidemment de cinéma. Puisqu'il y a du côté cinéma des activités intéressantes à l'extérieur. Je vais commencer par l'extérieur. Estivale du nouveau cinéma, ça se passe sur l'esplanade de la Place Tranquille. Alors, la Place Tranquille, je vous rappelle, c'est sur Sainte-Catherine, un peu à l'ouest de la rue Saint-Laurent. Et allez sur nouveaucinéma.ca, vous allez voir la programmation, mais c'est généralement des films qui commencent, c'est gratuit, c'est à l'extérieur, ça commence autour de 19h30, 20h, et vous allez voir qu'il y a une très, très belle programmation, ça vaut la peine. Si on reste dans le coin, bien évidemment, juste à côté, il y a l'activité concernant le street dance. C'est une compétition, et ça, c'est sur l'esplanade de la Place des Arts. Et cette activité-là, elle a lieu toute la fin de semaine et vous allez pouvoir voir vraiment des démonstrations hautes en couleur. C'est vraiment très fascinant. C'est du sport. C'est de la culture, mais en même temps, c'est du sport. Ensuite, il y a tout ce qui se passe, puisqu'on parle de beau temps, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a plein d'activités sportives sûrement que vous allez vouloir faire à l'extérieur. Et entre autres, je vous invite à aller voir un marché public, aller sentir les arômes, etc. Bon, il y a quelques semaines, en fait, je pense qu'il y a 3 semaines, c'était la semaine des marchés publics. Et on n'en a pas parlé, en fait, on avait l'intention d'en parler, mais on a manqué de temps. Et il y a plusieurs belles adresses dans différentes régions. C'est sûr qu'à Montréal et Québec, on connaît les grands marchés, mais ailleurs, je vous en donne quelques-uns. Il y a le marché du Vieux Aylmer, qui est sur la rue principale. On a une quarantaine de commerçants, des maraîchers, des pâtissiers, des fleuristes qui s'y réunissent tous les dimanches. Alors, ça vaut la peine d'y aller. Et on peut même faire des pique-niques, semble-t-il. On a aussi le marché public de la Vallée de l'Or. Alors, c'est à Val-d'Or. C'est une... En plus, c'est extérieur-intérieur. Il y a une structure qui protège des intempéries. Mais comme on devrait avoir de la belle température partout, c'est une foire gourmande qui propose une multitude de produits frais et artisanaux de la région. Donc, si on veut découvrir région et aller faire un petit tour, c'est assez loin, mais quand même. On ne sait pas, des fois, on a 3 jours.
Exactement ce que j'allais dire. Bon, c'est une longue fin de semaine.
C'est une longue fin de semaine, on part, on fait ça tranquille. De toute façon, là, quand on est sorti de Montréal et de Québec, aussi, mais à Montréal, je pense que c'est pire. Je ne vais pas partir à un autre débat aujourd'hui, déjà que j'en ai parti un. Donc, je vais aller sur la pointe des pieds, mais Montréal, c'est à cause de tous les travaux qu'on a. Ça roule après. On peut faire de grandes distances. Il y a le marché public, justement, pas tellement loin de Saint-Eustache. Et il y a même des tables qui sont à la disposition des visiteurs et il y a des animations. Donc, après ça, on peut retourner avec différents produits qu'on aura goûtés sur place. Il y a le marché public de Saint-Hyacinthe. Alors, si vous ne connaissez pas ce marché-là, c'est un des plus jolis marchés du Québec, vraiment, et un des plus vieux aussi. Il est sur la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe et lui, il est ouvert là, toute la semaine, tous les jours, donc tout le week-end. Et c'est sûr qu'à ce moment-ci, hein, c'est le temps de plusieurs récoltes. Alors évidemment, on peut se déplacer jusque-là. Et en même temps, on peut toujours aussi aller au marché public de Drummondville, juste à côté, où il n'y a pas que de la poutine. Au contraire, il y a aussi beaucoup, beaucoup de trouvailles appétissantes, des fruits, des légumes, des artisans qui vous font découvrir les produits qu'ils préparent à notre intention. À Bécancour, on a le marché Godefroy. C'est beaucoup axé sur les fines herbes, les produits de l'érable, les pâtes fraîches, et on peut même s'installer sur une terrasse aménagée et savourer une bonne blonde du marché. Le marché public de Rimouski, des petites cabanes en bois. Alors ça, c'est encore plus loin, vous allez me dire, mais c'est juste passé Québec, là. Vous arrêtez à Québec, au marché de Québec, puis ensuite vous continuez. Des petites cabanes en bois au parc de la gare et des activités artistiques. Et aussi, évidemment, de dégustations qui sont organisées. Ouf, là, on a fait un petit tour du Québec parce qu'on voulait vous donner le goût des marchés, on voulait vous donner le goût du plein air. Alors, merci Mathieu Tessier de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci, Mère Francine.
Merci à Jean-Christophe, Matt, qui était là, qui a fait même des choix musicaux. Merci à vous tous, chers auditeurs. Et je vous rappelle qu'on vous retrouve la semaine prochaine, Yvan Deslauriers, voyons, et moi-même, pour une autre émission de Au quotidien, 5e édition, 2 heures de temps.
Vous pouvez rejoindre l'équipe de Au